Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
Aujourd'hui, on dédie un dernier épisode de Gymnastique sonore au travail de Thomas Belalfaoui. Dans un premier temps, nous écouterons le dernier épisode de « Mais c'était un bon père », une série documentaire qui donne la parole à des personnes ayant grandi dans des familles où la violence, la peur et le silence leur ont été imposés. Au sein d'un groupe de parole animé par l'association Elles Imaginent, plusieurs co-victimes de violence partagent leur traumatisme et leur reconstruction. Les précédents épisodes sont à retrouver dans les derniers épisodes de Gymnastique sonore. Puis, nous écouterons les combattantes, des portraits croisés de femmes qui ont été victimes de violences conjugales et qui sont accompagnées par l'association Elles Imaginent.
J'ai toujours appelé mon père par son prénom. Papa, c'était au-dessus de mes forces. C'était ma manière à moi de montrer un peu que je lui en voulais, de dire sans dire. J'étais en train de jouer sur le tapis du salon à construire une maison en carton.
Ça peut pas être la maison du grand scoop, c'est sûr.
Quand j'avais 5 ans,
parce que
je lui avais trouvé ce surnom, le grand Schtroumpf. C'était plutôt gentil en fait, parce que en vrai, c'était plutôt Gargamel. Ça m'a rappelé ce film que j'ai vu quelques mois après la mort de mon père. C'est Jusqu'à la garde de Xavier Legrand.
Tu crois que je vois pas que tu te fous de ma gueule ? Vous habitez à la ZUP, c'est ça ?
Non.
Le petit garçon a 10 ans. Et lui, il dit l'autre, pour parler de son père.
T'es devenu aussi menteur que ta mère. T'es pourtant pas moins intelligent qu'avant, non ?
Je suis restée scotchée devant ce film.
Regarde-moi quand je te parle.
C'est la première fois...
T'es chez son mec ?
...que je vois mon enfance racontée au cinéma.
Tu sais, ta mère, elle a une bombe entre les mains qui va lui exploser à la gueule. Parce que tout ce qu'elle fait depuis le début, elle n'a pas le droit de le faire. Tu comprends ça ? Et elle va le payer, je peux te dire, elle va le payer très cher si elle continue à se foutre de moi. Je suis ton père ! J'ai le droit de savoir où tu vis, non ? Hein ? Regarde-moi quand je te parle ! Regarde-moi !
Ça veut dire quoi, au juste ? Je suis ton père.
C'est où ?
Quand mon père me dit ça, qu'est-ce qu'il croit que ça lui donne comme droit ?
Tout droit.
C'est vrai qu'il y a des choses qui reviennent comme ça, enfin qui sont jamais vraiment parties de ma mémoire, même d'enfants très jeunes, du style les enfants n'ont pas de droits. Ça, c'était quand justement j'étais à l'école primaire, je venais toute contente parce qu'on avait vu enfin les droits des enfants et on avait un petit dessin avec 10 droits des enfants et moi j'étais super contente de découvrir que ça existait. Et évidemment, on m'a presque envoyé le papier à la figure en mode « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Les enfants n'ont pas de droit, c'est quoi cette connerie, quoi ?» Il y avait des phrases comme ça que mon père pouvait dire du style « J'ai droit de vie et de mort sur toi » ou bien « Ici, je suis Dieu après Dieu ». Ça, c'était « Il n'y a pas à tergiverser, c'est comme ça ».
Mais c'était un bon père. Une série documentaire de Thomas Belalfaoui. Cinquième et dernier épisode. L'autre.
Lorsque le roi de la maison, le chef...
Moi, je suis Pierre-Guillaume Prigent, je suis docteur en sociologie. J'ai fait une thèse sur les stratégies des pères violents en contexte de séparation parentale.
Un roi décide dans un royaume... Et en fait, on a toujours l'impression que le royaume, on peut séparer les parties, alors que les sujets du roi, que sont la mère et les enfants, sont soumis aux mêmes règles. Lorsque un homme violent hurle sur madame, les enfants, il n'y a aucune raison qu'ils ne l'entendent pas aussi. Lorsque monsieur prend sa figure de tyran, il la montre pas uniquement à une personne et tout en la cachant aux autres. Il crée un climat de peur et d'insécurité pour reprendre le modèle de la stratégie de l'agresseur du collectif féministe contre le viol. L'agresseur dessine un cadre, la victime doit rester dedans. Si elle en sort, l'agresseur légitime le fait d'exercer de la coercition contre elle. Harcèlement, humiliation, violence physique, etc. Des enfants qui ont peur de leur père violent, qui marchent sur des œufs, sont dans la même vigilance que les femmes victimes de violences conjugales. Ce sont les mêmes mécanismes. L'homme instaure une autorité qui a des impacts sur l'ensemble de la maisonnée.
Oui.
Myriam ?
Oui. Julien se sent pas bien, je crois qu'il va pas pouvoir venir avec toi.
Quand il y a une séparation...
Sors, on va en parler.
Et même quand le père est violent...
Il a mal au ventre, je pense que c'est mieux si...
Mais... La justice oblige souvent l'enfant à aller le voir.
Écoute, je veux pas que ça se passe mal.
Au moins un week-end sur deux. Et quand la mère essaye de protéger l'enfant...
Antoine, il est vraiment pas bien.
C'est souvent elle qui se retrouve poursuivie.
Je sors pas, non.
Pour non-représentation d'enfants.
En fait, on a souvent des situations où ça commence à se compliquer pour les femmes quand elles allèguent des violences, quand elles dénoncent des violences. Les choses vont se jouer à ce moment-là. Est-ce que la plainte ou les allégations vont être entendues ou prises en compte ou pas? En fait, on a cette idée-là que finalement, à partir du moment où une femme présume ou dit qu'il y a des éléments qui pourraient nous faire penser que monsieur est dangereux, eh bien, si jamais ça tombe à l'eau, on va finir par dire que c'est madame qui est dangereuse du fait de dénoncer des choses qui ne sont pas vraies. Et donc, si jamais de fait les plaintes sont classées, ou si jamais des doutes commencent à exister et à apparaître par rapport à madame, là, le risque qu'elle perde la résidence des enfants est fort.
Mais comment c'est possible, une telle inversion de la culpabilité? Eh ben, je découvre que ça a carrément été théorisé par la psychiatrie. Je tombe des nues. Ça s'appelle le syndrome d'aliénation parentale. En gros, si un enfant rejette son père, c'est que sa mère est aliénante, qu'elle le manipule. Aujourd'hui, tout le monde, ou presque, est d'accord pour dire que cette notion, elle est inutile et dangereuse. Elle n'est plus utilisée explicitement par les tribunaux. Mais elle persiste, un peu partout, sous des formes détournées. Et notamment ce mot de « fusionnel » que mon père me rabâchait. Eh bien, il vient de là, en fait. Et encore aujourd'hui, il sert à accuser les mères et à délégitimer la parole des enfants.
C'est une manière de qualifier des situations à partir de critères sans jamais examiner les hypothèses alternatives, comme par exemple la violence conjugale. En fait, elle va attribuer systématiquement l'éloignement à un processus d'aliénation. Mais nous, on dit qu'un éloignement peut être tout à fait légitime en situation de violence. Un enfant ou une mère peuvent vouloir de la distance avec le père au nom de leur protection, et c'est une raison tout à fait légitime, que l'on ne peut pas qualifier d'aliénation parentale. C'est très compliqué de se dire qu'on puisse retirer des droits de manière permanente. Les gens trouvent toujours une raison de ne pas le faire. Et en dernier lieu, c'est « oui, mais quand même, l'enfant, il aime son père, ou alors l'enfant, il aura besoin de lui ». Donc il faut quand même envisager une reprise des contacts. Un juge peut décider de donner une visite médiatisée à un parent pour qu'il voie son enfant. En fait, les visites médiatisées, le plus souvent, ont lieu dans des centres qui sont prévus pour ça. Vous avez des travailleurs sociaux qui vont accueillir le père et l'enfant, qui vont le mettre dans une pièce et qui vont rester à proximité pour regarder si les échanges se passent bien. Ça peut durer 2 heures, par exemple. On se dit, visite médiatisée, ça va, et en fait, les enfants, ils mettent plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à se remettre du contact avec le père violent. Et ça, en fait, il faut le dire, ça n'a jamais été prouvé scientifiquement qu'un enfant a besoin de ses deux parents pour se développer. Par contre, ce qui a été prouvé, c'est que le développement d'un enfant est impacté négativement par la présence du père violent et du maintien du lien avec le père violent.
C'est sûr que, quand c'est possible, il vaut mieux avoir ses deux parents. Mais comment ça se fait qu'on ne pèse jamais le pour et le contre? D'un côté, ce qu'un père, même violent, peut effectivement apporter à l'enfant, mais de l'autre, comment il peut le détruire. En fait, j'ai l'impression que, systématiquement, on privilégie le droit du père, son droit d'homme, à disposer de son enfant, comme bon lui semble.
La pseudo-théorie de l'aliénation parentale, je pense qu'on peut l'analyser aussi comme une forme de l'antiféminisme ordinaire. Moi, je m'appelle Gwenola Sueur, je suis actuellement doctorante en sociologie à l'Université de Bretagne occidentale. Auparavant, j'ai été écoutante sociale dans des structures de mères séparées et divorcées. Et avec Pierre, depuis 2017, nous avons débuté une étude sur les usages sociaux de l'aliénation parentale en France. On retrouve des formes d'antiféminisme ordinaire à la lecture de rapports de travailleurs sociaux. Ils vont décrire la féminité de madame, c'est normal. Une mère doit être féminine, elle doit tenir sa maison de telle manière. Je ne parle pas de toutes les travailleuses sociales, il y a des travailleuses sociales qui font bien leur travail. Mais on peut avoir une attente par rapport à comment va être élevé l'enfant. Et on va estimer que l'enfant doit être élevé dans une maison propre et bien tenue. On doit vérifier la date de péremption des yaourts. Il y a des attentes comme ça. En gros, l'antiféminisme ordinaire, c'est classer les femmes selon certaines catégories. Donc on va avoir par exemple la femme parure, la femme mère, la femme enfant, etc. Donc il y a plusieurs catégories de femmes. Et de fait, l'usage de cette théorie, qui est une théorie misogyne, antiféministe, c'est remettre dans le cadre les mères après la séparation. C'est vraiment ça. Donc, la femme autonome, elle veut effectivement quitter le conjoint, elle a une certaine autonomie, etc. Non, il faut la remettre dans le cadre. Il faut qu'elle soit la femme mère, mais mère telle que monsieur veut qu'elle soit et telle que la société aussi veut qu'elle soit. Parce qu'en fait, la pseudo-théorie de l'aliénation parentale, ça s'appuie aussi sur nos représentations de ce que devrait être la femme et de ce que devrait être la mère. Ça s'appuie aussi sur les stéréotypes de genre, les attentes qu'on peut avoir d'un père, d'une mère, etc., d'un enfant. Ça se nourrit de ces stéréotypes-là pour pouvoir ensuite contrôler les femmes et les enfants après la séparation.
La psychanalyse a un rôle important comme fondement théorique des théories misogynes. En fait, toute la psychanalyse ne l'est pas. Je pense que des psychanalystes aujourd'hui peuvent se dire féministes et essayer de faire changer les choses de l'intérieur. Nous, ce qui nous pose problème, c'est que la psychanalyse n'a pas de fondement scientifique, donc pour évaluer les situations, c'est assez problématique, parce qu'il nous faut quand même des outils validés. Mais effectivement, elle fournit des arguments à des experts judiciaires qui, si jamais la mère n'est pas aliénante, est fusionnelle, ceci ou cela, ou alors narcissique, n'a pas réussi à intégrer le lien avec le père, ou des choses comme ça. La psychanalyse est un appui fondamental à la misogynie dans les tribunaux de la famille, dans les expertises judiciaires.
Et puis il y a aussi cette injonction à la coparentalité, cette injonction à qu'il faut à tout prix que les parents s'entendent après la séparation dans le meilleur intérêt de l'enfant, en occultant la violence conjugale, fait que les dames, elles vont être sous contrôle en fait, elles ont cette épée de Damoclès-là, cette peur que des violences soient exercées sur l'enfant, et cette peur qu'on ne les croit pas si elles verbalisent des violences, et cette peur qu'il y ait un transfert de résidence, cette menace-là, elle est présente en fait. Donc si la base, c'est la coparentalité, on est déjà dans un piège. Il faut aussi voir qui a mis en avant cette notion. Donc on voit qu'il y a des discours d'associations qu'on pourrait classer aujourd'hui comme associations antiféministes ou associations masculinistes, mais ce sont ce type d'associations qui ont mis en avant la coparentalité.
Les faits se sont déroulés aux alentours de 20h30 hier soir dans l'appartement familial qui se trouve au 5e étage de l'immeuble juste derrière moi.
Juste au moment où je termine le montage de cet épisode, l'actualité me rattrape.
Lors d'une dispute conjugale, ce père de famille aurait donc jeté, ses deux enfants âgés de 5 et 2 ans par la fenêtre avant de se donner la mort en se défenestrant lui-même. Selon une source policière, ce couple était connu pour être un terreau de violences conjugales mais aussi de violences intrafamiliales.
Bah, quand on les voyait à l'extérieur, franchement, ils avaient l'air d'être heureux. C'était des personnes gentilles, surtout lui. C'était un papa fusionnel, il était toujours avec ses enfants. Il leur achetait toujours plein de bonbons. Enfin, il était drôle, il était gentil. Non, c'est incroyable. J'arrive pas à y croire, vraiment.
Ironie de l'histoire, ce meurtre a eu lieu tout près de mon groupe de parole. Et il s'inscrit dans une longue série.
La première association de pères séparés en France s'est créée suite à l'affaire criminelle de Cestas. On est en février 1969 dans la région de Bordeaux, dans une commune rurale à côté de Cestas. Et un père prend en otage ses trois enfants pour la troisième fois. Une de ses enfants s'échappe et prévient la mère et les gendarmes. Lui, auparavant, il avait écrit à la mère des enfants et il avait écrit aux gendarmes pour leur expliquer qu'il rendrait les enfants à condition que son ex-femme, donc ils étaient séparés, divorcés, revienne à la ferme, prenne la place des enfants et là, il pourrait la tuer, en fait. Au bout de quelques jours, il va finir par tuer un gendarme et là, en fait, l'affaire va faire la une des médias du monde entier. Il va y avoir des négociations avec un groupe d'hommes, mais cette négociation va se transformer en légitimation de la prise d'otage parce qu'on va présenter ce père comme un pauvre papa qui aime ses enfants, etc. Les négociations vont échouer et puis les gendarmes vont partir à l'assaut de la ferme et lors de l'assaut de la ferme, le père va tuer ses deux enfants et se suicider.
J'ai hésité à parler de ces infanticides, même si c'était ma hantise quotidienne, en fait. Après tout, c'est des cas extrêmes. Des déséquilibrés. Mais j'ai compris que ce ne sont pas des faits divers. C'est la clé de voûte de tout un système. C'est à la fois la version extrême d'une violence banale et le repoussoir ultime, en quelque sorte.
En fait, le fait de présenter cette affaire comme l'acte fondateur du mouvement des pères, ça nous renseigne sur leur manière de légitimer la violence conjugale. Ils vont mettre en avant quelque chose d'extraordinaire. C'est le terroriste intime. On va avoir une représentation de ce que serait l'homme violent, hyper contrôlant, etc., qui bat sa femme, ou alors ça va être la personne racisée, ou alors ça va être la personne qui vit dans un territoire rural. Et du coup, la majorité des situations de violence conjugale, où il n'y a pas une intensité de violence conjugale, hop, celles-là, elles vont passer sous le tapis. Donc c'est mettre en avant une affaire extraordinaire pour dire « Oui, mais finalement, si on regarde bien, c'était quand même un bon père. » Ok. Mais cette stratégie-là, c'est une menace. Si j'ai pas la résidence alternée, je tue les enfants. C'est une menace pour toutes les femmes, en fait.
Pourtant, il y a des choses qu'on peut faire. Et ce n'est pas si compliqué. Mais, oui, pour ça, il faut d'abord se dire que la violence conjugale, ça existe. Et même, c'est banal. Se dire que l'agresseur, ce n'est pas un monstre. Ce n'est pas l'autre.
Déjà, systématiquement, vérifier s'il y a violence conjugale ou pas. Et on voit que dans le cadre, que ce soit une expertise psychologique ou le cadre de l'enquête sociale, on n'a pas été vérifié s'il y avait violence conjugale. On va voir une dame qui a peur du conjoint. On va pas se dire, tiens, c'est bizarre, elle a peur du conjoint. La question est même pas posée. Donc on voit qu'en fait, il y a aussi une représentation de ce qu'est la violence conjugale pour les travailleurs sociaux judiciaires avec l'idée qu'il y aurait des violences qui sont acceptables pour pouvoir élever un enfant, en fait. Et d'autres violences, on se dit, non, là quand même, monsieur a essayé de l'assassiner, monsieur a essayé de l'étrangler, et encore, l'étranglement n'est pas toujours considéré comme une violence physique importante et voilà, digne d'enlever l'autorité parentale conjointe au père violent. Et donc on voit qu'en fait, il y a des seuils de violence acceptables, alors que le processus de domination conjugale, que la violence soit intense ou pas, va impacter la victime et va impacter l'enfant aussi. Donc point barre. Est-ce qu'il y a ou pas violence conjugale? Et s'il y a violence conjugale, on protège les victimes, point barre, on les protège.
Très très tôt, c'était insupportable en fait, pour moi d'obéir à des lois, des ordres, sans comprendre pourquoi. Mais par contre, ce que je comprenais, ce que j'observais, c'était que si j'obéissais pas, c'était la punition, quoi. La punition aussi sous forme de mutisme. On parle souvent justement des violences qui sortent par la voix, mais le mutisme est notamment, par exemple, de dire là, t'as ta semaine. Et t'as ta semaine, ça veut dire pendant une semaine, je vais t'ignorer, je vais pas te parler. Et voilà, c'est ta punition parce que t'as pas fait ci ou t'as pas réagi comme il fallait. Et c'est vrai que quand on se construit comme ça et tout, bon, ça engendre beaucoup de peur, mais je dirais qu'aussi ça engendre beaucoup de révolte. Et l'idée de combattre les injustices familiales, elle a grandi dans ma tête très fortement, et elle a tellement grandi que j'ai voulu en fait devenir juge pour enfants quand j'avais 9 ans. Pour moi, c'était évident, normal, sauf qu'en fait, bah, tous les copains-copines disaient « Mais qu'est-ce que tu racontes ? » C'était « Mais t'es bizarre, pourquoi tu penses à un métier comme ça ?» Et ça, ça m'a pas quittée pendant des années et des années. Et du coup, bah, avec une personne comme le juge Édouard Durand, que j'admire beaucoup et que je trouve très intéressant, je me dis « Ah, oh, si seulement il y avait une personne, un juge qui avait parlé comme ça à l'époque, ça m'aurait fait quand même du bien, quoi. » Voilà.
Pourquoi les adultes devraient décider à la place des enfants de manière systématique ? Le maintien de l'autorité parentale conjointe, c'est le maintien d'une autorité parentale, d'une autorité d'adulte, quand bien même elle est illégitime. Donc en fait, la façon qu'on a de qualifier les choses révèle l'angle mort de la domination adulte. Imaginons une société dans laquelle où habite l'enfant n'est pas déterminé par ses parents ou par un juge, et que c'est lui qui a décidé de vivre là où il le souhaite, et qu'on lui a donné les moyens de le faire aussi. Enfin, je veux dire, on pourrait imaginer un revenu humain, en fait. C'est-à-dire que toute personne peut avoir un revenu, quel que soit son âge, et disposer de cet argent de la manière qu'elle le souhaite. Évidemment, on ne peut pas dire à un enfant qui a 8 mois qu'il est en capacité de gérer son compte bancaire. Mais au-delà de la question biologique, de la question développementale, qu'on doit prendre en compte, certes, il y a cette question-là du droit. Et je pense que c'est parce que, justement, on naturalise aussi trop quand on dit la violence conjugale atteint le développement des enfants. Oui, mais leurs droits aussi, leur capacité à s'autodéterminer, leur capacité à défendre des droits politiques, leur capacité à défendre leur intégrité, à se mettre en collectif, à avoir leur mot à dire, c'est ça que la violence conjugale atteint, pas juste leur développement. Donc si jamais on politisait la question, on se dirait, oui, en fait, il faut donner aux enfants, comme on donnerait aux femmes, les moyens de subsister indépendamment du contrôleur, de celui qui décide pour elles et pour eux. Et donc là, effectivement, on est sur des questions matérielles, concrètes. La question du logement, la question de l'argent, la question de la nourriture. Et là, pour le coup, à partir du moment où on se dit ça théoriquement, on se dit, mais comment on pourrait envisager concrètement que ça se passe ? En tout cas, c'est très fertile et ça permet d'ouvrir des pistes et ça donne de l'espoir, je pense, justement, d'envisager des transformations radicales.
Qu'est-ce que vous diriez à un enfant qui a vécu dans un contexte de violence conjugale ? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à cet enfant, co-victime, comme on dit ?
Ouais. Qu'on n'est jamais foutu. C'est vraiment important parce que on est dans des situations où il faut reconnaître la violence que c'est. Il faut reconnaître les impacts que ces violences ont sur le développement, oui, des enfants, mais sur leur trajectoire et sur le futur. Mais si jamais on est dans des discours qui peuvent parfois être dits à fixer le destin des personnes, à leur dire « tu as vécu ça, donc tu auras des traumas », je pense qu'on fait l'exact inverse de ce qu'il faut faire. Effectivement, il y a des gens qui disent « on ne guérit jamais ». Alors, je ne sais pas si on peut parler de guérison, mais je sais qu'il y a des gens qui vont quand même plutôt pas mal aujourd'hui, malgré le fait qu'ils ou elles ont vécu ça. En tout cas, ça nous marque, mais il y a des gens qui en font quelque chose. Et en fait, même au moment où ça se passe, les personnes, elles en font quelque chose. Que ce soit les femmes ou les enfants victimes, il faut aussi les aider à comprendre, et je pense qu'ils elles le savent, qu'au moment où ça se passait, ça, c'est des personnes qui résistaient. Elles disaient non, parfois. Elles faisaient des choses, en fait. À ce moment-là, elles faisaient, mais qu'elles continuent à faire ces choses-là. Moi, dans ma thèse, plein de femmes avec qui j'ai fait des entretiens ont vécu ça, mais se sont dit « je vais en faire quelque chose ». Elles sont devenues féministes, elles ont rejoint des associations, et elles ont transformé cela en quelque chose de meilleur.
Après avoir réfléchi, après avoir lu des livres, des articles, échangé avec d'autres enfants, été dans des groupes de parole éventuellement, avoir vu un film, je pense au film Jusqu'à la garde, se dire que tout ça, cette expérience-là, elle est là. On ne pourra pas la mettre de côté, elle est là. Juste, il y a toujours moyen de transformer cette merde, quelque chose qu'on a pu ressentir comme quelque chose de sale, parce que c'est ça la violence conjugale, c'est ça l'exposition à la violence conjugale, cette impression que c'était sale, qu'on est dégradé, qu'on est déshumanisé. Il y a ce côté-là, et c'est peut-être pour ça que des femmes, des enfants, ne verbalisent pas, parce que c'est sale, ça va les stigmatiser. Avec tous ces échanges, ces lectures, ces conversations avec d'autres personnes, on va transformer ça en or. On va en faire quelque chose. On va faire un podcast. On va faire de la recherche. Et au niveau de la recherche, il y a peut-être tout un travail à faire. C'est quoi son point de vue situé ? Qui on est ? Pourquoi on fait cette recherche ? Et le dire, et expliquer comment on a fait pour faire un pas de côté, parce que c'est dur. Tout ça fait qu'on va transformer ce qui est sale, ou ce qui nous semblait sale, en or. On va en faire quelque chose.
Na targie dziewus i wiezie ciele, co smutne oczy ma. Nad nim w górze hen jaskółka, fruwa zwinnie po niebie gna. Ach, i jak wiatry śmieją się, szaleją góra dół. Śmieją się przez cały dzień i letniej nocy. Mais c'était un bon père. Donna, 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 donna. Une série documentaire de Thomas Belalfaoui. Donna, 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 donna. Avec le soutien de la bourse Brouillon d'un rêve sonore de la SCAM. Merci à elle.
Et alors peut-être pourquoi avoir souhaité participer à ce podcast ?
Ça rejoint plusieurs choses que j'ai dit à Thomas au tout début quand il m'a présenté son projet. C'est que je trouve que c'est hyper important que ce soit pas tabou. Et il y a plein de fois où c'est hyper difficile pour moi d'en parler, pour plein de raisons qu'on a évoquées. Casser l'ambiance, perdre des amis, choquer... Mais je pense que briser les tabous autour de ça, de briser la banalisation de ça, c'est ce qui me motive et qui me fait trouver la force de faire ça, parce que je crois qu'il nous en faut. Et que ça rejoint aussi les combats et les engagements sociaux que j'ai et qui sont de l'ordre de bah, « je veux plus que ça se reproduise » et si je peux apporter une petite pierre en participant à ça, s'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui, en écoutant le podcast... reprend son souffle, ben ce sera déjà énorme quoi.
Merci à Sonia Pinault et Alexia Bellu de l'association Elles Imaginent.
Comme souvent quand je prends une décision, je réfléchis pas forcément à dans quoi je me lance et pourquoi. Et souvent j'y goûte pendant l'expérience. Et là, les deux raisons pour lesquelles j'ai dit oui, c'est le truc de bon élève, il y a une proposition, on va le faire. Et en même temps, très égoïstement, je me suis dit, c'est des groupes de parole en bonus. l'occasion d'encore plus vider mon sac encore plus souvent. Donc vraiment, j'ai pensé qu'à ça.
Merci à Gwenola Sueur et Pierre-Guillaume Prigent.
Et c'est plus, je crois, peut-être la semaine avant la première fois qu'on s'est parlé en étant enregistré, où je me suis dit, je crois qu'une fraction de seconde au tout début, j'ai eu un peu peur. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est super intéressant de se dire que d'autres personnes vont entendre ça parce que c'est des choses que moi, j'ai jamais entendues.
Merci à Adèle, Luna, Marine et Maya.
Quelques jours avant le premier enregistrement,
j'ai ressenti un peu de stress. Je me suis dit, waouh, genre, on va m'entendre. On va m'entendre hors du, hors des cercles de parole, on va dire fermés, quoi, entre guillemets. Et c'est vrai que ça m'a un peu stressée parce que, voilà, peut-être peur d'être reconnue, des choses comme ça. Mais en même temps, je me dis, et alors ?
Merci à mes proches qui m'ont accompagnée tout au long de ce projet.
Alors dans un premier temps, quand je me suis retrouvée confrontée à la question et que j'étais au groupe, franchement, j'aurais jamais osé dire « Non, je mets pas du tout mon mail sur la feuille, ça me fait flipper à mort, je me bats !» Tout le trajet, j'y ai pensé et après je me suis dit « En fait, je pense que c'est un bon exercice qui était pas facile parce que du coup, le premier jour où je suis arrivée, j'avais envie de fuir. »
Et merci à vous pour votre écoute.
Mais du coup, je suis contente de l'avoir fait. Bon, clairement, je vais pas envoyer le lien à tout mon répertoire. Mais si c'est entendu, bah franchement, que ce soit entendu. Enfin, en fait, c'est ma vie, donc faut pas que ce soit un secret. En fait, j'allais dire c'est un secret, mais oui, souvent c'est un secret de polichinelle. Mais le chemin, c'est de parler, quoi.
Od ciele spętać zabić, nie wiadomy jest zdarzeń splot, ale ten, kto ceni wolność, od jaskółki się uczy wlot. I jak wiatry śmieją się, szaleją góra dół, śmieją się przez cały dzień. Letniej nocy dona, 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 dona,
d'abord, c'est une grande histoire d'amour. Ça commence comme ça, en fait. On a trouvé l'âme sœur, son alter ego, celui qui vous comprend, celui que vous comprenez. Et une fois qu'on est amoureuse, en fait, une fois que voilà, nos sentiments sont engagés, c'est là que la guerre des tranchées commence. Petit à petit, d'abord. Alors, je dirais, il y a... Tout début, beaucoup de gaslighting, hein, comme diraient les Américains. Donc, c'est des petites choses, c'est des remises en question, en fait, indicibles. Et puis, au début, toujours accompagné de quelque chose de réconfortant. Ah, t'as pris des formes, ça te va bien, mais t'es pas un peu trop serré dans ta robe. Ou, ah, tu sors, ah ouais, il est très sympa ce chemisier, mais il n'est pas un peu trop transparent, un peu trop décolleté, ça fait pas un peu trop aguicheur. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui n'ont l'air de rien. En fait, prises isolément, ça n'est rien. Mais mis bout à bout et réitéré 24 heures sur 24, jour et nuit en permanence, c'est un travail de sape qui vous mine, qui vous grignote petit à petit, en fait... comme la mer qui grignote un château de sable au bord de la plage quand la marée monte. Et à chaque flux et reflux, il y a un petit peu du château qui s'écroule, qui s'effrite jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Sauf que le château, c'est nous, quoi. Voilà comment ça se passe. Ça se passe silencieusement, doucement, subrepticement, sans qu'on s'en rende compte. Et puis un jour, on se réveille et en fait, c'est les coups.
Un matin, ça m'est venu. Je dis non, mais en fait, je crois que je subis des violences conjugales. Et c'est sorti. C'est sorti dans ma tête, alors que c'était jamais sorti. Il y a plein de choses qui sont sorties. Hein. Il a été ultra jaloux, possessif, caractériel, voilà, prétentieux, plein de choses. Mais le mot violence, ouais, il a mis 10 ans à sortir. Et c'est grâce à mon fils. Je sentais en fait que là, La violence, elle était en train de se transposer. Elle était plus dirigée que envers moi, mais il y a quelque chose qui se passait avec mon enfant. Et ça a commencé à me faire très peur. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours accepté, en fait, parce que c'était juste moi et moi seule. Et dès l'instant où il était question, en fait, de faire du mal à mon enfant, ça a pu être OK du tout. Et dès l'instant où j'ai mis le mot violence, j'ai compris que j'allais avoir besoin de demander de l'aide.
Au bout d'un moment, on finit par demander de l'aide, quoi. Moi, ça a duré longtemps. 2 ans où j'ai vraiment subi toute seule. Et des choses que je souhaite à personne, mais quand j'ai trouvé de l'aide, moi, pour moi, ça a été un... Bah, je suis sortie du noir, ouais, vraiment, j'étais au fond du trou. En fait, Alexia et puis mon avocate, ça a été 2 personnes qui ont changé ma vie. J'ai entendu parler de Elle s'imagine par Madame Dolbeau, qui est psychologue au commissariat du 20e, qui me suivait depuis presque 2 ans. Et je crois qu'à un moment donné, elle est arrivée à un point où elle n'avait plus trop de solutions pour moi. Elle m'a recommandé en fait de m'orienter vers une association qui pourrait plus, plus globale, quoi, avec un accompagnement juridique aussi, parce que mon avocate, c'était une cata. Elle n'était pas spécialisée dans les violences conjugales, donc elle ne pouvait pas comprendre un peu les enjeux qui étaient en train de se jouer dès le départ, en fait. Elle m'a orientée vers des choses qui n'étaient pas adaptées à ma situation. Entre autres, la médiation.
Moi, ce que je voulais, c'était rejoindre le groupe de femmes, le groupe de parole. Donc voilà, j'ai contacté l'asso Elles Imaginent. Je sais plus, je crois que c'est ma psy qui m'en a parlé. Au premier groupe de parole, j'étais assez sereine, un peu excitée de rencontrer ces femmes. J'avais une espèce de... Je me sentais pas fière, mais je me sentais déjà fière d'elles, en fait, de nous imaginer ensemble à parler de ça. Mais j'avais pas forcément très conscientisée en me disant, bon voilà, moi j'aurais envie de parler de ça ou de ça. Enfin, je suis vraiment allée au feeling. Moi, j'étais pas très bien à ce moment-là. Et en fait, quand on est arrivé, je me suis rendu compte qu'on était toutes pas très bien aujourd'hui. Et étrangement, on avait une force et une énergie quand on était là. Et une espèce de rage. Et ça, c'était assez fantastique. C'est-à-dire qu'on reparlait des démarches, on reparlait des combats. Et finalement, ça s'est presque pas vu qu'on était tous dans un mood pas très cool, quoi. Et ça, c'était assez puissant.
Je me rappelle très bien de ce petit bureau confiné où il y avait Christine, et c'était la première fois que j'en parlais, en fait. Ça a été très émouvant. Il y a eu des moments d'indignation, en fait, chez elle, qui m'ont renvoyé à l'horreur de ma situation, en fait, qui m'ont rendu concrète, tangible, alors que pour moi, c'était un cauchemar éveillé et j'étais pas sûre de ce que je ressentais, en fait. C'est affreux à dire, mais je pense que j'avais honte. C'était vraiment un sentiment de désarroi d'en arriver là, en fait. Donc oui, c'est paradoxal, parce que j'ai été très bien accueillie, mais j'étais dans ce sentiment de honte et de me dire, voilà, j'en suis arrivée là et c'est grave, en fait. Parce qu'on voit dans la réaction des autres, quand on raconte son histoire... toute l'horreur qu'on ne veut pas voir soi-même dans ce qui se passe. Et après, ça a été compliqué pour moi de garder le lien avec l'association. C'est-à-dire qu'il y a eu cette première fois où je suis venue, où j'ai été prise en charge, et puis je suis revenue une deuxième fois, et puis peut-être une troisième, puis il y a eu le Covid. Et paradoxalement, en fait, c'est pendant la période du Covid que la relation avec Elles Imaginent s'est installée dans la durée, parce que c'est le premier moment où mon mari a quitté le domicile. Sur la durée, un de mes enfants m'avait dit la joie de vivre est revenue à la maison, en fait. Et puis, il y avait ce soutien qui, effectivement, a commencé à poser des jalons et à faire en sorte que je me sente pas seule, en fait, et incomprise.
Quand on commence un peu à sortir la tête de l'eau, de sortir de cette espèce de honte qui nous envahit, c'est de se dire « Ok, maintenant, je me donne légitimité à en parler et je me reconnais vraiment comme une victime. » Et donc, on peut en parler avec des mots justes et précis et percutants, dire « Voilà, j'ai vécu des violences conjugales et ça, en fait, ça s'appelle des violences conjugales. » Et à ce moment-là, il y a la posture des autres, la réponse. Je pense à un épisode en particulier. La réponse que j'ai eue, je caricature un peu, mais c'est « mais bouge-toi le cul, saisis le JAF, et puis voilà, et puis tu le mets dehors, et puis hop, c'est fini. » Mais pas du tout. En fait, ça se passe pas comme ça. Et, Et ce qui est très dur, hein, c'est qu'on peut pas dire frontalement à quelqu'un qui n'en a pas conscience, « Meuf, tu vis des violences conjugales. » Par exemple, à un moment donné, ça n'allait pas. Et j'étais tellement sous emprise que je me disais à moi-même, « Mais je ne peux pas vivre sans lui. » Ce qui aujourd'hui me paraît, mais j'en suis amenée, mais qui j'étais en fait? Mais comment j'ai pu me dire ça alors que j'ai tout le temps été quelqu'un d'ultra autonome et indépendante? Et donc, c'est hyper difficile parce qu'en fait, la personne en face de soi, elle est traversée voilà, par ces mouvements d'emprise tellement forts qu'elle peut se braquer très très vite. Ce qui m'aurait beaucoup aidée, c'est qu'elle revendique le fait intolérable de ce que je vis. Qu'elle partage en fait une partie de ma souffrance en me disant « Ouais, ce que tu vis, c'est intolérable. Effectivement, ce qu'il a fait, c'est pas ok. » Et il faut faire attention à toi, il faut que tu te mettes en sécurité. Voilà, utiliser des mots forts, en fait, qui montrent que la personne, elle saisit les enjeux, la gravité, en fait, de ce qui se passe et de ce qui pourrait se passer.
Alors moi, j'ai perdu, évidemment, tous mes amis aussi. Hein. Ça fait partie de l'histoire, voilà. Il fallait inviter personne, il fallait contacter personne, enfin bon. Mais j'ai quand même gardé deux copines d'enfance du collège, en fait. Comme toute amitié qui vient de l'enfance, il y a un côté très solide, en fait. Mais ben, c'est un sujet qui est douloureux pour elles, parce qu'elles se sentent impuissantes. Et donc, c'est un sujet qu'on a du mal à aborder. Donc, elles écoutent, mais après, ça glisse, on passe à autre chose. J'aurais aimé qu'il n'y ait pas cette gêne, en fait. Ouais. Qu'elles ne détournent pas le regard, qu'elles osent, en fait, dire même des choses maladroites. Et donc les bonnes personnes pour en parler, c'est pas forcément l'entourage qui vous aime, c'est aussi des spécialistes, parce qu'en fait il y a des mécanismes qui sont très particuliers. Et donc oui, pas rester seul et aller chercher du soutien auprès de professionnels. C'est pas un chemin qui est linéaire, c'est un chemin qui est par à-coups en fait. Il y a des grands temps de latence où on a l'impression que les choses ne bougent pas. Puis après, il y a comme des coups d'accélérateur où tout ce qu'on a engrangé en fait, sur le parcours vient débloquer comme un niveau. En fait. Et ça ne veut pas dire que quand on passe à l'étape supérieure, on ne va pas revenir à la case d'avant. C'est un peu aussi comme un jeu de loi, c'est-à-dire qu'il y a des cases piégées. Puis parfois, il y a des accélérateurs et là, on prend l'échelle, on remonte.
Je me suis mise en mode survie, quoi. Ma carrière, elle s'est arrêtée du moment où les procédures ont commencé à devenir sérieusement importantes. J'ai plus décroché de travail, quoi. Je suis comédienne à la base, j'ai une formation de danseuse classique. Je me suis battue pour tout, en fait. Du milieu social duquel je venais, je suis rentrée au conservatoire à Paris, j'ai fait sport-études. Mais depuis toujours, ça fait partie de mon ADN, donc voilà, j'avais ça en moi et j'étais très indépendante.
Il y a eu un signalement parce que je me suis retrouvée à l'hôpital et de fil en aiguille, en fait, la police a été informée. Et donc, il y a un magistrat qui a été saisi, une enquête qui est en cours, donc j'ai été auditionnée deux fois par une inspectrice. Voilà, c'est mon seul rapport à la justice pour le moment, parce que j'ai rien démarré, en fait. Je suis encore un peu dans l'angoisse de la réaction que mon mari pourra avoir si j'ose demander le divorce. Je suis dans la réflexion de savoir s'il faut ou non que je porte plainte, parce qu'il y a matière. Et c'est compliqué aussi vis-à-vis de mes enfants, c'est-à-dire... D'un côté, oui, il a fait des choses hautement répressibles, hein, des crimes et des délits passibles selon la loi, donc c'est assez clair. Et d'un autre côté, ça reste le père de mes enfants, donc l'assigner en justice et lui faire encourir une peine grave, je m'en sens pas capable en fait, je veux juste qu'il disparaisse de ma vie, tout simplement. Le plus discrètement, facilement possible, mais je sais pas si c'est possible en fait. Donc oui, je sais qu'il faudra en passer par là à un moment donné. J'avance petit à petit là-dessus et l'association m'aide énormément.
Je suis allée au commissariat pour me défendre. Avant, c'était inimaginable. J'ai vécu des choses vraiment hyper violentes et graves, en fait. Mais jamais j'aurais fait ça. Pour moi, je pensais que ça voulait dire prison, police, il y avait prison, commissariat, c'est aussi prison. Enfin, je ne savais pas. Je suis allée au commissariat parce que ce jour-là, il s'est passé quelque chose de très grave. Le père a appelé la police pour dire qu'il se passait un drame chez nous, en fait. Et donc, il fallait y aller pour s'expliquer et pour se défendre. Sauf que quand je suis arrivée, donc j'ai pris mes enfants avec moi en plus. Donc j'ai dit, voilà, mes enfants vont bien. Je veux qu'on constate que les enfants vont bien, que les propos, en fait, qui ont été tenus une heure plus tôt par le père de mes enfants, voilà ce qui s'est passé, etc. Et donc, il m'a dit, ah, donc là, il m'a gardée, en fait. Je suis sortie à minuit. D'avoir tout lâché, ça m'a... Oh, ça m'a soulagée. J'avais parlé à personne, en fait. Mais jamais, jamais, personne n'était au courant. Mais là, je pouvais plus. Je pouvais plus cacher les choses.
Il m'a frappée pour la première fois. Et à ce moment-là, quand j'ai menacé d'appeler les flics, ce qu'il a fait, en fait, était déjà horrible. Et là, j'ai dit, je vais appeler les flics, en fait. Et là, il m'a frappée. Et à ce moment-là, j'ai pas cherché à comprendre. C'était le matin. Parce que moi, c'était toujours le matin, entre 6h et 8h du matin, que s'exerçaient les violences en règle générale, juste avant d'aller travailler. Et donc, je suis pas allée travailler, je suis allée direct au commissariat. Et là, je me suis dit non, il faut que j'agisse et il faut que j'agisse vite. Donc on m'a reçue, j'ai fait un procès verbal d'audition. Ça a duré très longtemps, j'étais pas préparée du tout, j'y suis allée toute seule. Vraiment, juste après, en fait, et on m'a demandé, voilà, est-ce que vous voulez porter plainte? Et là, je pouvais pas, en fait. J'étais, ben non, en fait, là, le soir, je vais rentrer chez moi, il sera là, il y a mon fils, je peux pas porter plainte contre cette personne, en fait, c'est pas possible, c'est pas concevable. J'ai commencé à avoir plein de pensées sur ce qu'il pourrait faire, et c'était paralysant, en fait.
Je me disais, le pire, c'est qu'on t'enlève tes enfants. Donc le pire, il n'est pas là. Donc tant que c'est pas le pire, tu te bats, tu te bats, tu te bats. En ce qui me concerne, il y avait des visites qui étaient médiatisées. Donc moi, je confiais mes enfants à une association. Et je récupère mes enfants avec des hématomes sur le visage. Mon fils avait 8 ou 9 mois. Je prends des photos avant, je prends des photos après. Avant, il n'y avait pas de bleu. Après, il y a des bleus. Donc j'explique les choses comme ça. Ça s'est complètement retourné contre moi, c'est-à-dire qu'encore une fois, je suis une mère abusive, j'accuse le père de maltraitance. C'était très très mal vu en fait, alors que c'était mon avocate qui m'avait dit de le faire. Et d'ailleurs, ça m'avait été recommandé par la police aussi. Ce juge-là, il avait acté le fait qu'il n'y avait pas de violence parce que les plaintes n'avaient pas été instruites et que si tel avait été le cas, s'il y avait eu un danger pour les enfants ou pour la mère... On aurait une trace sur le pénal.
Avant le passage devant le juge, il y a des heures et des heures de montage de dossier. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important, en fait, sur le parcours juridique. Pour vous dire, j'ai dû me mettre en arrêt maladie pour pouvoir faire mon dossier, en fait. Parce que je cohabitais toujours avec mon agresseur, donc je ne pouvais pas travailler chez moi, hein, parce que c'est un vrai travail. Hein, il faut prouver que nous sommes des victimes. J'ai commencé à compiler, à extraire les conversations WhatsApp, à recopier à la main des SMS. J'ai écrit 10 pages de témoignages qui relatent un peu mon histoire avec lui, les différents événements. J'ai demandé à des proches de me faire des attestations. J'ai aussi, bien évidemment, les certificats médicaux, des psys, des médecins. Ensuite, une fois que le dossier a été fait, mon avocate l'a envoyé. Moins de 15 jours après, on a reçu une réponse du tribunal nous disant « Votre requête est acceptée, vous avez une audience en mai ». Et là déjà, ça a été quelque chose de hyper fort parce que j'ai vu la justice reconnaître l'état de fait des violences que je subissais et reconnaître l'urgence en fait, de statuer sur l'intérêt de mon enfant. Et les droits de garde. Et ça a été très positif sur le moment, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. L'appartement, il était à mon nom, hein, donc j'étais chez moi. Il ne voulait pas partir. Il refusait la séparation. Et quand j'ai commencé à parler de juge, il a commencé à se mettre dans tous ses états. Il menaçait de mettre les services sociaux en disant « Moi, t'inquiète, hein, j'ai tout ce qu'il faut pour dire que t'es une grosse mère de merde et te retirer la garde de ton fils. » Il m'a menacé plein de fois de monter mon enfant contre moi. De dire « Tu verras, de toute façon, là, c'est un homme, alors là, il est dans les jupons de sa mère, mais tu verras quand il va grandir. C'est moi qui va aimer, c'est moi qui va préférer, et je vais bien lui faire comprendre ce que t'as fait. » Et donc, moi, mon objectif, c'était qu'il parte. C'est-à-dire que j'avais deux objectifs, statuer sur la garde de mon fils et qu'il s'en aille. Vu que je le convoquais au juge des affaires familiales, il allait recevoir une convocation chez moi. Puisque forcément, il était domicilié à la même adresse que moi. Et ça, ça m'a mis dans un état d'angoisse, de peur, incommensurable. Parce que ce que m'avait dit l'avocate, c'est qu'il allait avoir toutes les preuves des violences dans ses mains. Avec des témoignages de mes proches aussi, qu'il connaît. Et que je ne savais pas ce qu'il allait en faire. Et donc je vivais dans la terreur. Alors j'ai commencé à inventer toutes les stratégies. Je pars avec mon fils, on va chez ma mère. Et finalement, je me suis dit, bah, le jour où l'huissier doit passer, c'est le jour où je le vire. Et où je lui dis de me rendre les clés. C'est ce qui me donnait la force, en fait, de le faire en me disant, là, t'as une convocation du juge. Maintenant, aux yeux du monde, sous le prisme de la justice, il y a des témoins, il y a des personnes qui savent.
C'est très long, 4 ans, mais franchement, ça a pris fin. Et quel soulagement quand ça prend fin! Aujourd'hui, je suis hyper... moi, je m'enthousiasme pour pas grand-chose. Voilà. Je me suis mise à cuisiner alors que je cuisinais pas. Je prends les petits plaisirs de la vie comme ça. Je me dis que c'est... Non, ça va le faire. Mais non, j'en suis certainement pas sortie. Je m'attends toujours à tout. Par exemple, tu vois, là, tu vois cette petite meuble là-bas. Il y a le téléphone qui est éteint. La ligne des enfants. Le téléphone est éteint. Je l'allume une fois par semaine pour voir s'il y a quelque chose qu'il faut que je gère au niveau de la communication avec le père, etc. Quand je dois le rallumer, ce téléphone, j'ai vraiment le cœur qui bat. Au départ, c'était un vrai blocage sur tout ce qui était mail parce que j'ai été harcelée littéralement, nuit et jour. Pendant, ça a duré peut-être 3 ans, des centaines et des centaines de mails. Vraiment à me dire que ben je suis folle, que j'ai perdu la raison, que je suis abusive, que je suis violente, et qu'en fait ben non, on a juste considéré que ben le père est comme ça parce qu'il voulait en fait voir ses enfants, c'était légitime, vous comprenez, parce que voilà, un père veut juste voir ses enfants, et qu'aujourd'hui il voit ses enfants et que ça ne se calme pas, donc je me dis ça ne s'arrêtera pas, donc non, ça sera toujours.
J'ai eu la garde exclusive sans aucune remise en question. Il faut savoir que lui, il a dit « Ok, oui, c'est bon ». Et par contre, oui, la juge a refusé de le débouter de son autorité parentale. Donc nous avons tous les deux toujours l'autorité parentale. Donc nous devrons signer toujours tous les deux. Et si je veux quitter Paris, etc., bah, je dois avoir son accord. On est toujours en contact et je serai en contact avec lui toute ma vie. Et pour certaines femmes qui se sont faites violer hein, dans le cadre de violences conjugales, ben voilà, on continue de voir son agresseur encore et encore et encore. Donc comme si voilà, un inconnu qui vous a violé un soir, ben vous continuez de le voir encore et encore en vrai. Et à lui parler. Et à lui parler même cordialement. Et à même lui dire bonjour, merci, au revoir. Ça, c'est hyper difficile.
À partir du moment où vous êtes séparés du père depuis la naissance des enfants, ça tombe sous le sens en fait qu'une maman veuille que son enfant porte son nom aussi. C'est plus simple dans les démarches administratives, c'est plus simple pour voyager, pour ma boîte aux lettres, ne pas avoir à poser le nom de quelqu'un pour moi qui est la personne la plus violente que j'ai rencontrée de ma vie. Voilà. Et de me demander d'apposer son nom sur ma boîte aux lettres, pour moi c'était quelque chose qui était de l'ordre de... c'était comme me condamner en fait.
Aujourd'hui, je suis suivie par Alexia, en fait, qui est ma psychologue. On se voit tous les 15 jours pour des conversations qui durent souvent une heure, une bonne heure, voilà. Et puis, je viens en groupe de parole quasiment toutes les semaines. Je pense que les deux sont vraiment complémentaires, en fait. Les groupes de parole m'ont beaucoup aidée à avoir de l'empathie pour moi-même, bizarrement. C'est-à-dire que je vois autour de la table du groupe de parole les femmes qui sont merveilleuses, vraiment. Je me dis, mais elles sont fantastiques, ces femmes. Et puis, c'est des femmes qui me touchent énormément. Et en fait, ces sensations-là, je pourrais me les appliquer à moi-même.
J'ai encore besoin, oui, de soutien. J'ai pas coupé le contact. Alors aujourd'hui, je sollicite beaucoup moins, mais par exemple, je participe à des ateliers parfois. Tu vois, là, c'est fleurs séchées sur ma... Je l'ai fait avec le groupe de parole, avec des femmes comme moi. Et c'est assez sympa parce qu'en fait, ça dédramatise en fait les choses. On a le droit de lâcher les vannes. On a le droit de pleurer. C'est pas la même chose de parler à des amis, à ma famille, à mon frère et tout. Et à l'association, c'est autre chose, quand même. Des gens qui n'ont pas vécu ça, ils peuvent pas s'imaginer ce que ça signifie. Il a essayé de détruire tous les aspects de ma vie, quoi. Mais tous. Du coup, ça n'a pas de prix, ça. Et je sais que je peux l'avoir nulle part ailleurs. Le fait d'être en sécurité.
Je pense qu'après mon parcours, je me suis émancipée aussi de tout ce qui était culturellement et tout ce qu'il y a encore, en fait, culturellement accepté dans certains comportements masculins. Hein, parce qu'en tant que femme, voilà, moi, des violences ordinaires et des violences sexuelles, etc., j'en ai subi énormément. Mais je passais souvent outre, hein, que ce soit du harcèlement de rue, etc. Et en fait, aujourd'hui, toutes ces petites formes de violences quotidiennes que je peux continuer à vivre me sont devenues intolérables.
C'est la seule relation que j'ai eue dans ma vie de ce type-là. C'était pas mon premier amoureux. Dans mes trois enfants, ma fille, c'est un autre papa. Bon, on s'est pas entendu, mais on s'est séparés de façon décente comme des adultes. Et puis j'ai eu d'autres relations, jamais, aucune. C'est inédit, en fait, et j'espère que ce sera la seule et l'unique. On y travaille aussi, ici, faire en sorte qu'on se protège mieux à l'avenir aussi. Je pense que quand on a vécu ça, une fois qu'on a réussi à mettre suffisamment de distance et une fois qu'on arrive à voir les mécanismes qui sont mis en place, on les repère très facilement. Enfin, moi, ça m'est arrivé de rencontrer d'autres personnes qui ont essayé de... Tout de suite, j'ai eu les warnings. Je suis partie, j'ai pris mes jambes à mon cou. Voilà. Et c'est pas forcément des relations amoureuses, hein. D'ailleurs, ça peut être des relations avec des collègues, des amis ou des membres de sa famille aussi, hein. Dans ces situations-là, c'est important, en fait, de se faire confiance et de faire confiance aux autres aussi. Enfin, aux bonnes personnes. Celles qui sont là pour nous aider.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.